Deux points d'y décrivez trois événements importants, chacun à une période différente de l'histoire de l'Église. Lecture de la Bible, Jean 14, 16-17, 16h07, Acte 2, 1-13. Naturellement, plusieurs événements pourraient être considérés comme les plus importants. Cependant, les élèves ne doivent en décrire que trois, chacun appartenant à une période différente de l'histoire. J'ai dressé une liste de plusieurs autres événements parmi lesquels ils peuvent choisir. Nous avons déjà abordé la mort et la résurrection de Jésus, ainsi qu'un résumé du livre des Actes, je vais donc plutôt me concentrer sur quelques autres, dont l'un, le jour de la Pentecôte, a été mentionné dans notre résumé des Actes, mais mérite plus d'attention ici. 1. La Pentecôte. En Jean 16h07, Jésus avait prévenu les disciples qu'il allait s'en aller. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et dans Jean 14h16 et 17, nous lisons. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Acte 2h1 dit que le jour de la Pentecôte était arrivé. C'était 50 jours après la Pâque, et c'est ce que signifie Pentecôte, le 50e. La Pentecôte était littéralement une semaine de semaines après la Pâque et était également appelée la fête des semaines. Kent Hughes dit : c'est la plus fréquentée des grandes fêtes, car les conditions de voyage étaient optimales. Il n'y a jamais eu de rassemblement plus cosmopolite à Jérusalem que celui-ci. C'était le moment idéal pour la descente de l'Esprit Saint de Dieu. Il souligne qu'il était approprié que le don du Saint-Esprit ait lieu au cours de cette fête parce qu'elle était à l'origine considérée comme la « fête des prémices » et qu'elle était soulignée par une offrande spéciale de deux pains cuits faits à partir de blé fraîchement récolté, désignée dans Lévitique 23h17 comme des « prémices pour le Seigneur ». Le jour des prémices était donc tout à fait approprié pour le don du Saint-Esprit et la conversion de 3000 âmes, prémices d'une moisson encore plus grande qui devait venir au fur et à mesure que l'Évangile se répandait. Il est également important, comme le dit Hughes. Elle était également appropriée parce qu'à l'époque du Christ, la Pentecôte était considérée comme l'anniversaire du don de la loi sur le mont Sinaï, et offrait donc une occasion parfaite d'opposer le don de la loi au don de l'Esprit. Que s'est-il passé ce jour-là? Hughes le décrit magnifiquement. Alors que les apôtres avaient la tête inclinée dans la prière, une brise commença à les traverser, puis ce fut plus qu'une brise. Littéralement, un bruit sourd, comme celui d'un vent puissant, porté avec violence, traversa la maison, comme le souffle d'une tornade, si bien que leurs vêtements s'agitèrent follement. L'Esprit de Dieu venait sur eux. Une présence ardente était au milieu d'eux et, comme l'indique le grec, elle se divisa soudain en langues distinctes, semblables à des flammes, qui dansaient individuellement au-dessus de la tête des personnes présentes. Le feu a toujours signifié la présence de Dieu. Par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, Dieu avait promis un baptême de feu, Matthieu 3h11, et maintenant il était là. Ils furent « remplis du Saint-Esprit » et, en un instant, se mirent à parler en d'autres langues. Parce que les gens étaient venus de tant de régions, chacune avec sa propre langue, Acte 2, 7-11 décrit leur étonnement d'entendre les œuvres puissantes de Dieu racontées dans leur propre langue. Et au verset 12, « parce qu'ils étaient troublés et perplexes, ils ont demandé, qu'est-ce que cela signifie ?» Là encore, Hughes l'explique parfaitement. Cela signifie que le Saint-Esprit apporte une vie nouvelle à ceux qui croient en Jésus-Christ, et que cette vie s'accompagne d'une puissance continue pour ceux qui sont continuellement remplis. Cela signifie qu'il y a un feu dans nos vies, qui brûle individuellement l'ivraie et qui s'étend à ceux qui nous entourent. Cela signifie que la vérité de Dieu sort de nous d'une manière dont nous n'aurions jamais pu rêver, l'expression divine de Dieu à travers nous. Cela signifie communication, joie, reconnaissance, soumission. Pierre, alors rempli d'une nouvelle force de l'Esprit Saint, a immédiatement saisi l'occasion de prêcher à ceux qui s'étaient rassemblés de tant de nations et le résultat a été que 3000 personnes ont été sauvées, Acte 2h41. Le reste du livre des Actes décrit la manière dont les apôtres et les autres croyants sont sortis, sous la puissance du Saint-Esprit, et ont proclamé l'Évangile dans toute l'Europe. L'Église était née. 2. Gutenberg produit la première Bible imprimée, 1456. Le site internet Gutenberg Bible. Comme nous l'apprend. Johann Gutenberg a la particularité d'être l'inventeur de l'imprimerie à caractère mobile. En 1455, Gutenberg a produit ce qui est considéré comme le premier livre jamais imprimé, une Bible en latin, imprimée à Mayence, en Allemagne. Né sous le nom de Johann Jans Flesch, Jean Chair de Poule, il préférait être connu sous le nom de Johann Gutenberg, Jean Bellemontagne. Ironiquement, bien qu'il ait créé l'invention la plus importante de l'histoire, Gutenberg a été victime d'associés peu scrupuleux qui ont pris le contrôle de son entreprise et l'ont laissé dans la pauvreté. Néanmoins, grâce à l'invention de la presse à caractère mobile, les bibles et les livres pouvaient enfin être produits en grande quantité et en peu de temps. Gutenberg a imprimé 180 bibles, disponibles uniquement sur commande. Le prix moyen d'une bible aurait été de 30 florins, soit environ 3 ans de salaire d'un commis. La bible était disponible en deux versions, une version moins chère imprimée sur papier et une version plus chère imprimée sur vélin. L'acheteur payait un prix de base pour l'impression et payait ensuite un supplément pour les détails supplémentaires, coloration à la main, enluminure, reliure et couverture. Une Bible de Gutenberg contient 1286 pages et il a fallu entre 3 et 5 ans pour réaliser l'ensemble du tirage de 180 Bibles. 3. Luther affiche ses 95 thèses, 1517. Le 31 octobre 1517, le prêtre et érudit Martin Luther s'est approché de la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, et y a cloué un morceau de papier contenant ses 95 thèses qui allaient marquer le début de la réforme protestante. Le site web History.com propose un résumé de ce qui s'est passé. Dans ses thèses, Luther condamnait les excès et la corruption de l'Église catholique romaine, en particulier la pratique papale consistant à demander des paiements, appelés « indulgences », pour le pardon des péchés. À l'époque, un prêtre dominicain nommé Johann Tetzel, mandaté par l'archevêque de Mayence et le pape Léon X, menait une grande campagne de collecte de fonds en Allemagne pour financer la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome. Bien que le prince Frédéric III le Sage ait interdit la vente d'indulgences à Wittenberg, de nombreux membres de l'Église se sont déplacés pour en acheter. À leur retour, ils montrent à Luther les indulgences qu'ils ont achetées, affirmant qu'ils n'ont plus à se repentir de leurs péchés. Luther était tellement frustré par cette pratique qu'il a rédigé les 95 thèses, qui ont été rapidement saisies, traduites du latin en allemand et largement diffusées. Une copie est parvenue à Rome et des efforts ont été déployés pour convaincre Luther de changer d'avis. En 1521, le pape Léon X excommunie officiellement Luther de l'Église catholique. La même année, Luther refuse à nouveau d'abjurer ses écrits devant l'empereur Charles Quint d'Allemagne, qui publie le célèbre édit de Worms déclarant Luther hors la loi et hérétique et autorisant quiconque à le tuer sans conséquence. Protégé par le prince Frédéric, Luther commence à travailler sur une traduction allemande de la Bible, une tâche qui prendra 10 ans. Le terme « protestant » est apparu pour la première fois en 1529, lorsque Charles Quint a révoqué une disposition qui permettait aux dirigeants de chaque État allemand de choisir d'appliquer ou non l'édit de Worms. Un certain nombre de princes et d'autres partisans de Luther ont protesté, déclarant que leur allégeance à Dieu l'emportait sur leur allégeance à l'empereur. Ils sont connus de leurs adversaires sous le nom de protestants, peu à peu, ce nom s'applique à tous ceux qui croient que l'Église doit être réformée, même en dehors de l'Allemagne. Lorsque Luther meurt de cause naturelle en 1546, ses convictions révolutionnaires ont jeté les bases de la réforme protestante, qui va révolutionner la civilisation occidentale au cours des 3 siècles suivants. Ainsi, comme la plupart ou probablement la totalité de vos élèves ne sont pas catholiques, il est important qu'ils comprennent l'importance de ce qu'a fait Luther. 4. Calvin publie la première édition des Instituts de la religion chrétienne, 1536. Les adeptes de la tradition réformée adhèrent aux écrits de Jean Calvin, qui a publié son livre le plus célèbre, L'Institut de la religion chrétienne, en 1536. En tant que tel, ses croyants sont appelés calvinistes. Le site web study.com propose un résumé utile du calvinisme. Calvin a mis l'accent sur le rôle de Dieu dans le processus du salut. Il a théorisé que les croyants étaient prédestinés au salut. Cela signifie qu'avant même d'avoir créé le monde, Dieu a choisi les personnes qui bénéficieraient de son don du salut. Calvin affirmait une compréhension stricte de la souveraineté de Dieu. Il croyait que Dieu contrôlait entièrement les actions de l'humanité et que rien n'arrivait sans que Dieu ne le veuille. Les 5 principes fondamentaux du calvinisme sont souvent appelés « points ». Examinons chaque point de l'acronyme TULIP. En anglais. Dépravation totale. Il s'agit de la croyance selon laquelle tous les êtres humains sont pécheurs et naissent avec une nature pécheresse inhérente. Chaque être humain est complètement pécheur dès sa naissance. L'élection inconditionnelle, il s'agit de la croyance selon laquelle Dieu a prédestiné les individus au salut et que les individus ne peuvent pas choisir Dieu sans que Dieu ne leur permette de le faire. Expiation limitée, Il s'agit de la croyance selon laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour les péchés des seuls saints qu'il a choisis, et non pour les péchés des incroyants. La grâce irrésistible, il s'agit de la croyance selon laquelle les élus de Dieu ne peuvent pas résister à la grâce de Dieu dans leur vie. Persévérance des saints, il s'agit de la croyance selon laquelle une fois qu'un individu est sauvé, il ne peut jamais perdre son salut parce qu'il est éternellement lié au Christ. 5. L'œuvre d'Arminius, 1603. Ceux qui s'opposent à ces croyances sont souvent appelés arminiens, d'après Jacob Arminius, qui a vécu de 1559 à 1609. Un article paru dans Christianity Today indique que c'est son étude de l'Épître aux Romains, alors qu'il était pasteur à Amsterdam, qui a fermement opposé Jacob Arminius au calvinisme. Pour lui, la foi est la cause de l'élection. Un résumé utile des convictions des Arminiens est disponible sur le site aclajar.net. Dieu élit, ou choisit, tous ceux qui répondent par la foi à son don du salut. L'œuvre expiatoire du Christ sur la croix a été accomplie pour tous les hommes, bien qu'elle ne soit efficace que pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit agit dans la vie des non-croyants pour leur permettre de croire. Le salut est alors offert comme un don qui peut être accepté ou rejeté. Tous ceux qui persévèrent dans leur foi seront sauvés à la fin. Ceux qui ne persévèrent pas subiront la perte de leur salut. Certains Arminiens n'acceptent pas la possibilité d'apostasie chez un vrai croyant. Cher animateur, je vous conseille de ne pas ouvrir un débat entre les partisans du calvinisme et ceux de l'arminianisme. Cela conduit généralement à un débat houleux qui peut être source de division. Dites plutôt à vos élèves qu'il est bon de connaître la différence entre les deux et laissez-les prendre leurs propres décisions. 6. Publication de la version King James de la Bible, 1611. Le site web Christian History Institute. Org nous donne un résumé utile de la façon dont cela s'est produit. Jacques voulait remplacer la populaire Bible de Genève. Cette version de 1560 était très appréciée du peuple, et c'est probablement celle que Shakespeare a lue, mais elle était perçue comme calviniste, ce que James n'aimait pas. Les puritains, quant à eux, n'aimaient pas la Bible des évêques, une version autorisée de 1568, lue dans les églises mais peu acceptée par le commun des mortels. L'Angleterre avait besoin d'une version que les églises et les particuliers, ainsi que l'Église d'Angleterre et les puritains, pourraient lire avec profit. En 1607, Jacques nomme une cinquantaine d'érudits et les répartit en 6 compagnies. Pendant 2 ans et 9 mois, ils travaillèrent individuellement et en conférence, puis l'ensemble du texte fut revu par un comité de 12 personnes. Bien que les érudits aient utilisé l'hébreu et le grec originaux, ils ont suivi de près les traductions antérieures. En fait, il n'est peut-être pas approprié d'appeler la version du roi Jacques une traduction. Comme l'explique la « préface des traducteurs », il s'agit plutôt d'une révision de versions antérieures. Par exemple, le travail de William Tyndale, le premier grand traducteur anglais, est évident dans de nombreux passages. La KJV a été appelée « Authorized Version », « Version autorisée », bien que, curieusement, aucune preuve n'ait été apportée que Jacques l'ait formellement approuvée. Officiellement, la nouvelle version était « destinée à être lue dans les églises et remplacer la Bible des évêques ». Mais il a fallu attendre longtemps avant qu'elle ne remplace la Bible de Genève en tant que Bible du lecteur individuel. 7. L'explosion du christianisme en Afrique. Au XXe siècle, le christianisme en Afrique a explosé, passant d'une population estimée à 8 ou 9 millions en 1900 à quelque 335 millions en 2000, marquant un déplacement du « centre de gravité du christianisme » de l'Occident vers l'Amérique latine, certaines parties de l'Asie et de l'Afrique. Cher animateur, n'oubliez pas qu'il n'est demandé aux étudiants que de décrire 3 des événements clés de l'histoire de l'Église. Avec ceux que nous avons énumérés ici et dans d'autres résultats, il y a probablement 9 ou 10 choix possibles.